Jacques Prévert, lui, est un doux qui sait être violent. C'est un sentimental qui parle avec attendrissement des amoureux, mais qui également sait se dresser avec fureur contre les sottises, les lieux communs. Il foie les gens en place, les nantis, les satisfaits. Jadis, il a écrit les dialogues du Quai des Brumes, qui nous a révélé Michel Morgan ainsi que Jean Gabin, ainsi que les Portes de la Nuit avec Montand.
Et vous, vous rappelez-vous des Enfants du Paradis, des Portes de la Nuit, de Drôles de Drames, des Visiteurs du Soir et de bien d'autres films, Quai des Brumes. Tout cela est signé Jacques Prévert. Jacques Prévert, le poète, l'anarchiste, l'indépendant, tout ce que vous voulez.
Deuxième visite à Prévert pour le Panthéon décousu. Cette fois-ci, on évoquera les quelques films qu'il fit avec Marcel Carné. Et vous verrez, il y a quelques bons chefs-d'œuvre. Bonjour et bienvenue dans cette cinquième visite de la saison 9 du Panthéon décousu sur Radio Alpa, en podcast et partout ailleurs sur radioalpa.com. Cette semaine, c'est donc Prévert sur grand écran. On y croisera Gabin, Morgan, Jouvet, Michel Simon, Montand. Allez, première question par Radio-Canada en 1960.
Quand vous avez fait ces films prestigieux qui font vraiment encore maintenant la gloire du cinéma français, quelle était l'atmosphère du cinéma? Est-ce que pour quelqu'un comme vous, un poète, c'était facile d'aborder les producteurs, par exemple?
C'était facile et difficile, comme tout. Seulement, c'était une époque différente d'aujourd'hui. Je ne dis pas plus heureuse. Plus heureuse pour moi, peut-être, à cause de l'âge. Mais c'est pas ça, c'est que c'était plus facile parce que le cinéma à cette époque jouissait du splendide privilège d'être presque encore entièrement méprisé par l'élite. Après, le cinéma a pris ses lettres de noblesse, ses lettres de cachet, si on peut dire, et puis c'est pris.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous travaillez avec un directeur, un metteur en scène, en toute liberté?
Oui, autant qu'on puisse avoir la liberté dans un moyen d'expression.
Mais ils sont tout le monde, oui, mais vous en avez eu beaucoup de liberté.
Oui, on a eu beaucoup de liberté.
Carné s'est raconté en souvenir en 76 et en 78, toujours pour Radio-Canada. Nous l'entendrons longuement aujourd'hui.
Donc j'avais cherché un sujet pour Françoise Rosay. On en a trouvé un comme ça, qui ne me satisfaisait pas complètement, qui était une chose extrêmement conventionnelle. Mais enfin, le producteur s'est déclaré enchanté, il aimait beaucoup les gangsters, les prostituées, leurs protecteurs. Et comme ce sujet se passait dans ce milieu, il a évidemment bondi là-dessus. Et j'étais en quelque sorte, ça m'était en quelque sorte ce sujet, pas imposé, mais enfin, j'étais presque contraint de le faire quand même. Puis donc j'avais ce sujet qui ne m'enthousiasmait pas, et s'est posé le problème de l'adaptateur et du dialoguiste. Et tout d'un coup, pour un sujet qui était vraiment très réaliste, j'ai pensé à un garçon dont j'avais vu une pièce 3-4 ans auparavant, qui était une pièce de surréaliste, comme toutes les pièces ou tous les écrits surréalistes qui étaient foncièrement antimilitaristes, et qui était aussi très poétique, absurde, et qui s'appelait La bataille de Fontenoy. Et une phrase m'était restée dans l'oreille, qui m'avait beaucoup diverti, et c'était « Soldat de Fontenoy, vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd ». Et j'ai donc demandé ce garçon, qui s'appelait Jacques Prévert. Nous allions faire ensemble, Prévert et moi, toute une série de films, et je crois pouvoir dire que jamais nous ne nous sommes vraiment disputés. Nous avons eu des discussions parfois âpres, mais jamais de disputes.
Leur premier film, sorti en 1936, s'est finalement appelé Jenny, le prénom féminin.
Quand j'ai montré ce scénario à Prévert, j'avais très peur, ça s'appelait Prison de velours, c'est tout dire, ça se passait dans une maison de rendez-vous. J'avais très peur que le poète de parole, que l'auteur de parole me dise, écoute, moi je veux rien faire avec ça. Au contraire, ça a eu l'air de l'intéresser, il m'a dit, bah écoute, on va se débrouiller. Bah, il a employé un verbe plus vigoureux que débrouiller d'ailleurs, et puis on s'est débrouillé. C'est-à-dire que dans cette histoire très conventionnelle, eh bien, on a ajouté des tas de personnages secondaires, insolites, originaux, pittoresques, et que finalement, pour une fois, la sauce faisait passer un peu le rôti, comme on dit en français.
Quelques mois plus tard, un producteur aviateur de leur prochain projet.
Et puis, Cornillon m'a montré deux livres dont il avait les droits, dont un anglais qui s'appelait Isfurt's Offense, je prononce très mal l'anglais, vous m'excuserez, et qui est devenu Drôle de Drame. Vous savez, j'ai choisi ce sujet. Et finalement, alors là, Prévert s'en est donné à cœur joie dans le surréalisme, dans l'absurde, et dans l'humour anglo-saxon.
Oh, le canard! L'admirable canard aux oranges!
l'évêque Chouvet est invité par son cousin, l'écrivain errant, Michel Simon. Bizarre, vous avez dit bizarre.
Et où est-elle exactement, cette chère Margaret?
Elle est à la campagne.
Au loin?
Non, pas très loin d'ici. J'ai des amis.
C'est des amis?
Des amis que nous connaissons.
Bien. Oui. Et il y a longtemps que cette jeune personne est à votre service?
Eh ben, oh, mais certainement, cher cousin, j'étais ici depuis 15 ans.
Hein?
Ah non, je confondais avec la cuisinière.
Ah, madame Petit, je prie. Mais dites-moi, cher cousin, vous ne trouvez pas étrange que votre femme ait précisément choisi le jour où je viens dîner pour s'en aller en voyage?
Elle a dû partir brusquement pour un cas de rougeole. Vous comprenez, un cas subit.
La rougeole?
Oui.
Je croyais que vous m'aviez dit qu'elle était partie chez des amis.
Mais justement, chez des amis qui ont la rougeole.
Ah!
Oui. Certainement. Oui.
Et où demeure-t-il exactement, ces amis qui ont la rougeole?
Ah oui, où ils demeurent exactement. Mm. Vous me demandez, cher cousin, où ils demeurent exactement. Ben, c'est bien simple, ils demeurent exactement dans les environs de Brighton, je crois.
Vous croyez, cher cousin? Bizarre.
Qu'est-ce qu'il a?
Qui?
Votre couteau.
Comment?
Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, alors je croyais que...
Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre?
Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre.
Moi j'ai dit bizarre, comme c'est bizarre.
Nous on s'était beaucoup amusé à tourner le film. Et... Je croyais naïvement que tout le monde s'étant amusé à le tourner, j'avais une distribution merveilleuse, il y avait Roset à nouveau, il y avait Simon, il y avait Jouvet et Barreau. Et contrairement à ce que je croyais, le film et les spectateurs ont très mal pris le film. C'est tout juste si on ne cassait pas les fauteuils dans la salle qu'ils projetaient, il y avait des invectives continuelles, on nous prend pour des imbéciles, enfin même un mot plus bref, on se fout de nous et tout ça. Et bref, le film n'a pas été un très très grand succès, c'est le moins qu'on puisse dire. On a même eu un procès parce que le héros s'appelait Molineux, qu'on avait mis des grandes affiches dans Paris, Molineux est-il un assassin, et qu'on n'avait pas pensé qu'un grand parfumeur s'appelait Molineux aussi. Et il a fait un procès quand il est sorti de chez lui et qu'il a vu cette affiche sur les murs, Molineux est-il un assassin, il est évident qu'il n'était pas très content.
En 1938 sort un autre classique d'après Pierre MacOrlan, adaptation et dialogue de Prévert. Musique de Maurice Jobert.
Mon Dieu.
Ah, c'est moi.
Chirurgien. Prends les mains blanches et soigné.
On aura le bateau dans le la sainte journée dans le
livre. S'il n'a pas parlé, il ira.
Pourquoi?
Parce que je sais ce qu'il faut lui dire pour qu'il se taise.
Des fois, tu te dis que je vais te laisser retourner là-bas?
Hein? Je n'ai rien à craindre. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire?
Rien.
Alors, il faut partir.
Tu es sûr qu'il est ici?
Pourquoi l'avoir tué? Pourquoi?
Et qu'est-ce que vous en savez?
On le dit.
Oh, qui c'est ça, oh?
Moi, ma tête ne plaît à personne. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Quand je me regarde dans une glace, elle me plaît à moi. Après tout, dans cette tête-là, pas de tête du tout.
Thank you.
quand un jour, un voisin de palier, dont j'avais vaguement entendu parler, parce que je ne me mêle pas beaucoup aux gens de l'immeuble en général, me téléphone et me dit, j'ai peut-être un scénario pour vous, j'ai enfin une idée de sujet, est-ce que je peux vous voir? Il avait que le palier à traverser, je lui dis, entrez donc. J'étais enthousiasmé non pas par l'histoire elle-même, mais j'étais enthousiasmé par la manière de raconter l'histoire. Pour une fois, on ne racontait plus l'histoire dans l'ordre chronologique. On prenait l'histoire par la fin, et il y avait de continuels retours en arrière, des évocations sur la vie passée, et comment cet homme, enfermé dans cette chambre, qui venait de tuer un autre homme, comment cet homme en était arrivé à ce crime. Et la difficulté, c'était de faire accepter ce nouveau sujet à Prévert, ce qui était vraiment très délicat, c'était pas un sujet de lui, le faire accepter à Gabin, qui avait accepté Rudy Vertu, et le faire accepter au producteur. J'en ai parlé à Prévert, qui, sur un ton un peu pincé, je le comprenais, m'a dit, moi, je fais rien, si tu veux tourner ça, ça s'appelait Le jour se lève, si tu veux tourner ça, m'a-t-il dit, libre à toi. J'ai dit, oui, mais Jacques, on va travailler ensemble. Bon, oui, d'accord. Moi, je ferai pas le sujet, c'est pas mon sujet, mais je ferai les dialogues, si tu veux. Et puis, le producteur, lui, m'a dit tout de suite, « Ah, mais vous, il va falloir que je paye un deuxième scénariste, alors. » Bon, j'ai dit, « C'est pas grave, on arrangera la chose. » Puis, il ne demandera pas tellement, il n'est pas connu. Puis, nous sommes allés voir Jacques Viau, le scénariste du Jour se lève, Frogeret, le producteur, et moi, nous sommes allés voir Gabin dans une station de sport d'hiver où il prenait quelques jours de vacances. Et Gabin m'a dit, « Écoute, si tu veux tourner ça, tu veux, ça te plaît ?» Je dis, « Oui. » Mieux que Rudy Vertu. Je dis oui, c'est beaucoup plus original et surtout la manière de le raconter. Bon, ben, il dit, allons-y. Et voilà comment est né Le jour se lève. C'était un film, Le jour se lève, et c'est un film noir, comme disaient les gens. C'était un film sévère, austère et assez sombre. Et le film n'a pas eu un énorme succès. Il vivotait comme ça, tant bien que mal. La presse n'avait pas été très bonne. Il y avait un critique qui avait écrit Le jour se lève du pied gauche. Bref, c'était pas ce qu'on appelle le grand succès. Mais malgré tout, il y avait un garçon qui était vraiment, comment je peux dire, le prophète de la critique, qui s'appelait André Bazin, et qui avait fait ce qui était un film prodigieux, et il avait fait une sorte de thèse sur le film, sur Le jour se lève, où il avait trouvé un monceau de symboles que ni Prévert ni moi n'avions songé à y mettre. Et on en était donc là, quand la déclaration de guerre est survenue. Tous les cinémas fermés instantanément, tous les lieux de spectacle fermés.
Ils partent tous pour la zone sud. Carné, une fois son service terminé en Lorraine, je rejoins Toulouse, puis Nice, où il y a des studios de cinéma. Et où les Italiens semblent plus arrangeants que les Allemands partout ailleurs sur le territoire. Ils vont écrire puis tourner l'un des films français les plus connus dans le monde.
Vous pouvez nous parler d'un film dont tout le monde rêve chez nous, même si tout le monde ne l'a pas vu, Les Enfants du Paradis. Comment vous l'avez fait? La genèse, un petit peu, comment l'idée, comment tout ça a été formé?
J'avais fait un autre scénario, c'était pendant ce qu'on appelle l'occupation. Et puis alors, le producteur trouvait que ça pouvait très bien ne pas passer à cause de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la censure.
On se promenait sur la pente des Anglais avec Prévert et moi, on a rencontré Barreau. On est allé boire un verre, tous les trois, et puis Barreau a commencé à parler de théâtre. Quand il parle de théâtre, on va plus loin de l'arrêter, et il nous a raconté une histoire de deux bureaux. Il nous a parlé de deux bureaux tout d'un coup.
Tiens, pourquoi on ne fait pas un film sur deux bureaux, qui était un mime. Mm-hmm. Moi, j'ai demandé à quelle époque ça se passait exactement, parce que j'aurais bien voulu faire un film sur un assassin qui s'appelait Lassner. Et comme l'époque coïncidait, on a pu faire venir mon assassin, en même temps que le funambule.
En somme, ce sont deux idées qui se sont rejointes,
oui,
et qui ont été à la
base. On peut appeler ça des idées, des sentiments.
Plutôt un goût.
Une histoire très singulière de bureau, qui était arrivé à deux bureaux. Il se promenait à l'apogée de sa gloire, il se promenait avec une amie à son bras à boulevard du crime, et il y avait un poivreau qui l'avait accosté, Barreau. Deux bureaux l'avaient écarté, le poivreau était revenu avec la douce obstination des ivrognes, avait injurié la femme tant et si bien que deux bureaux avaient pris une canne, avaient tapé pour écarter le poivreau, si malencontreusement qu'il l'avait tendu raide mort. Et alors l'idée que nous avait séduit Prévert et moi,
c'est que tout Paris s'était précipité aux assises pour entendre parler de Bureau. C'est une jolie histoire. Ah, on s'est intéressé à ça, et puis on s'est aperçu très vite que c'était un faux bon sujet, parce que de deux choses l'une, où on prenait Barreau, comme on y avait pensé tout d'abord, les gens connaissaient sa voix, donc ça n'avait pas de surprise, il n'y avait rien, où on prenait un inconnu, il se moquait éperdument de sa voix. Bon. Alors Prévert voulait abandonner. Puis moi, je lui ai dit, écoute, moi j'aime beaucoup l'époque, je vais aller à Paris, je vais aller au cabinet des estampes, je vais voir ce que je vais trouver, je vais essayer de te ramener des documents, on va voir. Toi, n'abandonne pas tout à fait l'idée, pense à autre chose si tu veux, mais n'abandonne pas tout à fait l'idée. Puis, effectivement, je suis allé au cabinet des estampes, à Carnavalet, j'ai trouvé tout ce que j'ai voulu, j'ai fait faire 200 photocopies, j'ai tout ramené, j'ai aussi trouvé des livres rue de Seine dans les librairies théâtrales, j'ai trouvé des livres sur les théâtres de l'époque et tout, et j'ai tout ramené après. J'ai dit, tiens, voilà le film, j'ai tout jeté sur son bureau, j'ai dit, voilà le film.
L'immense Jean-Louis Barrault, Baptiste et l'excellente Arletty, Garance, illuminent le film.
Joli sujet de pendule, Baptiste emportant son secret dans la tombe.
Taisez-vous donc, c'est idiot de raconter des choses pareilles.
Son secret, Garance. Sa petite lueur. Le souvenir d'une nuit où il s'est cru heureux, pour toujours. Bon, peut-être pas ce visage-là. Dans le fond, c'est pas tellement triste un enterrement. Il suffit qu'il y ait un petit peu de soleil dessus et tout le monde est bien content. Et bien, bien regardé, hein. C'est tout de même plus gai qu'une noce avec un marié tout seul, sans la mariée. Je n'aime pas cette corbeille de noces. Je déteste cette fleur. Je déteste tout le monde. Cet homme, c'était là. Je déteste Frédéric. Je déteste moi-même.
Baptiste.
Mais qu'est-ce que c'est, Baptiste? Puisque celle qu'il aime ne l'aime pas. Rien du tout. Un feu follet, un automate, un loup-garou. Elle est finie, Baptiste. Si j'y Baptiste, la vie lui a donné une fleur rouge, une volée de bois vert. Un habit de bois blanc.
Mais enfin, on a terminé le film. Alors, j'ai traîné la finition du film, le montage, pour que ce soit le premier film qui sorte, La Paire Venue. Et puis, j'ai raté mon coup de 13 jours. C'est-à-dire, le film est sorti le 25 avril 1945 et je crois que l'armistice a été signé le 8 mai. Vous voyez ?
Carence avec Pierre Brasseur, le père de Claude, alors en culotte courte.
Ah, vous avez souri.
Ne dites pas non, vous avez souri.
Ah, c'est merveilleux.
La vie est belle. Et vous êtes comme elle.
Si belle.
Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Après moi? Et vous venez à ma rencontre?
Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors?
Alors?
Alors, comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi?
Parce que j'ai rendez-vous.
Au rendez-vous? Destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pour quoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre?
Oh, moi, j'aime tout le monde.
Eh bien, voilà qui tombe à merveille, je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux.
Est-ce que vous en savez?
Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire.
Vraiment?
Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors?
Alors, au revoir. Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laissez tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard.
Oh, Paris est grand, vous savez.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Et puis là aussi, les avis étaient un peu partagés. La presse a trouvé que c'était un peu théâtre et tout. Et comme disait Prévert, il y a, je crois... 60 minutes ou 50 minutes de cinéma muet, les pantomimes et tout, si on trouve que c'est théâtre. Et puis alors tout d'un coup, le film a eu un immense succès, aussi considérable que Les Visiteurs Plus. Et c'était un film très curieux parce que c'est le film dont on me parle le plus de moi. Je rencontre souvent des gens qui me disent j'ai vu le film 15, 16, 18 fois. Et je sais, parce que j'ai un léger intérêt sur le film, je sais qu'il n'arrête pas de passer en Amérique depuis qu'il est sorti, depuis qu'on a acheté, depuis enfin peut-être 20 ans maintenant, il n'a pas cessé de passer une semaine en Amérique, dans telle ou telle ou telle ville. Curieux ce film. Et il a refait récemment, j'avais un peu, enfin il y a 2 ans je crois, il a fait une exclusivité, une reprise à La Pagode, qui est une ville, une salle importante à Paris, et les gens étaient assis dans l'allée. Et des jeunes, et beaucoup de beatniks et tout ça. Et moi, j'avais très peur des jeunes, comment ça va être un beat? Pas du tout. Et on continue à parler de ce film,
Vous connaissez cette air-là?
Non.
Moi non plus.
Et pourtant, pour les chansons, j'en connais un rayon.
Moi, je l'ai déjà entendu. Mais où et quand?
Pour refermer cette seconde visite à Prévert, je ne pouvais pas évoquer cette chanson tout juste reconnue dans le film Les Portes de la Nuit, sorti en 1946. Juste avant de lancer l'aventure du Festival d'Avignon, c'est Jean Villard qui joue à l'harmonica ce thème chanté partout dans le monde. Face à lui, attablé dans un café, il y a là le tout jeune Yves Montand devant Maître Jouvet. Retrouvez le Panthéon décousu en podcast et sur toutes les meilleures plateformes et en réécoute libre sur radioalpa.com. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans Juliette Gréco, Les Enfants qui s'aiment. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, n'hésitez pas à vous faire des films, mais dites que des bons, hein, on compte sur vous.
Moi souvent, j'ai envie de faire un film.
Oui.
Je me propose un autre film. Et je réponds, je vais lui répondre une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit l'histoire de la baleine. Là.
Oui.
Non, pas le...
Ah non. Moby Dick.
Moby Dick. Et cet homme avait dit, j'avais fait un conte, il me disait, c'est l'histoire d'un homme qui répondait toujours, je préférais ne pas le faire. Oui. Alors très souvent, ce qu'on me propose, je préfère ne pas le faire. Pourtant, je vais au cinéma autant qu'avant.
Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne, et c'est seulement ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants, leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne, ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de leur premier amour.